Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet un peu technique, mais crucial dans la vie des groupes d'entreprise. Je parle de la manière dont ils fixent les prix pour les services qu'ils s'échangent entre eux.
Oui, bonjour. C'est vrai que ça peut paraître interne, mais c'est un sujet qui intéresse énormément les administrations fiscales. On pense au support IT, au management, à l'assistance technique, c'est constant.
Exactement. Et l'enjeu est de taille, parce que derrière ce « combien on facture », il y a tout le domaine, parfois complexe, des prix de transfert.
Tout à fait. Un prix jugé non conforme, pas au prix du marché, disons, par le fisc, ça peut coûter très très cher. Donc, il y a une vraie pression pour bien faire les choses, pour justifier ces prix.
Donc, l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de poser les bases. Pour ceux qui découvrent, qui veulent approfondir un peu le sujet des prix de transfert, on va essayer de décortiquer ensemble les fondamentaux de la tarification de ces services intragroupes.
Oui, on va s'appuyer sur des analyses, des exemples pratiques, notamment ceux de Fair Consulting Group, qui nous servent de base. L'idée, c'est de clarifier ce qu'on entend par service intragroupe facturable, quelles sont les méthodes de prix.
Quel coût prendre en compte, comment calculer la marge, le fameux markup.
Et surtout, oui, les points de vigilance, les pièges à éviter pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Parfait. Alors, commençons par le début. C'est quoi exactement un service intragroupe qu'on appelle souvent SIG ?
Alors, le concept de base est assez simple. C'est un service qui est fourni par une société d'un groupe, ça peut être la maison mère, un centre de services partagé, à une autre société du même groupe. Une filiale, par exemple.
Et les exemples, on en a plein dans les documents. Le support informatique, bien sûr, les RH centrales, l'assistance technique, le marketing group, la gestion administrative financière. C'est très large, en fait.
Très large, oui. Mais l'élément clé, ce n'est pas tant la nature du service que sa valeur pour l'entreprise qui le reçoit. Il y a un critère fondamental, le benefit test, comme on dit souvent.
Le test de l'avantage.
C'est ça. La question, c'est est-ce que la filiale qui reçoit ce service, est-ce qu'elle aurait été prête à payer une entreprise indépendante pour l'avoir ? Ou est-ce qu'elle aurait dû le faire elle-même si le groupe ne lui fournissait pas ?
Ah, d'accord. Donc, si le service apporte une vraie valeur ajoutée, une valeur économique identifiable pour la filiale, alors il peut être facturé. Et il doit l'être, j'imagine, pour respecter les règles.
Exactement.
Un point intéressant d'ailleurs dans les sources, c'est qu'on précise que le fait qu'il y ait un déplacement physique ou pas, ça ne change rien. Un support à distance, s'il a cette valeur, il est tout aussi légitime.
Absolument. C'est la substance économique qui compte. Est-ce que ça aide la filiale à mieux fonctionner, à gagner de l'argent, à réduire ses coûts ? Est-ce qu'elle en avait besoin de toute façon ? Si oui, alors on a une base pour la facturation.
Ok, c'est clair pour la définition. Alors maintenant, la question qui fâche peut-être, comment on fixe le prix ? Quelles sont les approches générales ?
Alors, pour les services, les documents montrent bien qu'il y a deux grandes manières de faire en pratique. Soit on va allouer des coûts centraux, aux filiales qui en bénéficient.
Une sorte de répartition.
Oui, voilà. Soit on utilise des tarifs, souvent des tarifs à l'heure ou à la journée, et on facture en fonction du temps passé.
Je vois aussi qu'on mentionne la méthode du prix comparable externe, la méthode CUP en anglais. L'idée, si je comprends bien, c'est de trouver le prix du même service entre deux entreprises indépendantes et de l'appliquer. C'est courant, ça.
Trouver une transaction externe qui soit vraiment comparable à un service interne, qui est souvent très spécifique, très intégré au process du groupe. C'est quasiment mission impossible la plupart du temps. Sauf cas très rares, comme une machine vendue avec maintenance, au même prix pour tout le monde. Mais pour du support RH ou IT interne...
D'accord, donc si la comparaison directe est compliquée, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent alors ?
Eh bien, la méthode qui revient le plus souvent, et celle qu'on va détailler un peu, c'est la méthode du coût majoré. Le cost plus en anglais.
Coût majoré, ok.
Le principe est assez simple. On identifie tous les coûts qui ont été nécessaires pour fournir le service, et à ce total de coûts, on ajoute une marge bénéficiaire, le fameux markup.
Très bien. Alors, creusons cette méthode du coût majoré. Parce que j'imagine que le diable est dans les détails, surtout face au fisc. Quel coût on met dans cette base de coûts ?
Oui, c'est crucial. Les documents qu'on a étudiés décomposent ça en trois grandes catégories, en gros. Premièrement, il y a les coûts directs.
Logique.
Oui, ceux qui sont directement liés à la prestation. Typiquement, les salaires et les charges sociales des personnes qui réalisent le service.
Ça, c'est la base. Ensuite ?
Ensuite, il y a une part des coûts indirects. Là, il faut allouer une partie jugée raisonnable des frais généraux des départements qui fournissent le service ou des fonctions support qui aident à le réaliser.
Comme par exemple ?
Les exemples listés sont variés. Une quote-part du loyer des bureaux, les frais de téléphone, d'internet, l'électricité, les fournitures, l'amortissement du matériel, parfois certains frais de management indirect, ou même des honoraires externes payés par le département.
Allocation raisonnable, j'imagine que c'est là qu'il peut y avoir débat. Et la troisième catégorie de coûts ?
La troisième, ce sont les frais réels spécifiques. On parle souvent de frais refacturables ou out-of-pocket expenses. Ce sont des dépenses externes engagées spécifiquement pour une mission précise. L'exemple type, c'est les frais de voyage, de train, d'hôtel, si quelqu'un doit se déplacer pour rendre le service.
Ok. Donc on additionne tout ça. Coûts directs, plus coûts indirects alloués, plus frais spécifiques. Ça nous donne le coût total. Et là, on ajoute une marge. Pourquoi c'est si important d'ajouter une marge, même entre sociétés du même groupe? On pourrait se dire, ben, on refacture juste le coût et ça suffit, non?
Excellente question. Ça touche vraiment au cœur du principe de pleine concurrence qui est la base de tout en prix de transfert. Ce principe dit que les transactions entre sociétés liées doivent être faites au même prix que si elles étaient indépendantes.
D'accord.
Or, une entreprise indépendante, elle ne rendrait jamais service à une autre juste pour couvrir ses frais. Elle chercherait, et c'est normal, à faire un profit pour rémunérer son travail, les risques qu'elle prend, les actifs qu'elle utilise. Eh bien, la marge, elle sert justement à ça, à simuler ce profit qu'une entreprise indépendante aurait fait. Sans marge, en général, la transaction n'est pas considérée comme étant de pleine concurrence.
Je comprends mieux la logique fiscale. C'est clair. Alors maintenant, on voit dans les documents qu'il y a deux manières principales d'appliquer cette méthode coût plus marge. La facturation directe et l'allocation indirecte. Pouvez-vous nous expliquer la différence ?
Oui, tout à fait. On distingue bien ces deux approches.
Commençons par la facturation directe ou direct charge. Comment ça fonctionne ?
Alors là, l'idée, c'est de calculer un tarif horaire ou journalier, par exemple, pour chaque type de personne ou de service qui est fourni.
D'accord.
Ce tarif, on le calcule en prenant les coûts annuels directs et indirects, bien sûr, d'une personne ou d'une équipe. On divise par le nombre d'heures ou de jours qu'ils peuvent travailler dans l'année. Et ensuite, on ajoute la marge de pleine concurrence. Et après, c'est simple. On facture chaque filiale en fonction du temps que les équipes ont réellement passé pour elles.
Et ce tarif journalier, par exemple, comment on le fixe? Il y a un exemple dans les sources, je crois.
Oui, l'exemple montre bien le calcul. On prend, disons, le coût annuel total d'un manager, son salaire, les charges, sa part de frais de structure. Tout ça, on divise par le nombre de jours travaillés prévus et on applique la marge. L'exemple utilise 6%, mais attention.
Oui.
Ce taux de 6%, il ne sort pas d'un chapeau. Il faut le justifier. Souvent, ça demande une étude de comparabilité, un benchmark, pour montrer que c'est bien un taux de marché. C'est ça qui rend le tarif solide. Et dans l'exemple, ça donne un tarif de 33 000 unités par jour pour ce manager.
Ça a l'air assez transparent comme méthode, non? Mais quels sont les avantages et les inconvénients, d'après ce qu'on lit?
L'avantage principal, c'est clair, c'est la transparence. On peut savoir qui a fait quoi, pour qui, combien de temps. Et si le tarif est bien justifié, c'est souvent mieux vu par le fisc.
Et l'inconvénient ?
L'inconvénient majeur, c'est la paperasse, en fait. Il faut mettre en place un système fiable pour suivre le temps passé par chacun, des timesheets. Et ça peut être assez lourd à gérer au quotidien.
Oui, j'imagine bien. D'accord. Et l'autre option, alors, l'allocation indirecte ?
L'allocation indirecte, ou indirect charge, on l'utilise quand c'est difficile, voire impossible, de suivre précisément le temps passé pour chaque filiale. C'est typique pour des services très centraux, très partagés.
Comme quoi, par exemple ?
La direction générale, certaines fonctions finance ou RH du groupe, ou même l'infrastructure informatique globale. Pour ces services-là, on met tous les coûts ensemble dans un grand pot, un pool de coûts, on ajoute la marge globale dessus, et ensuite on répartit le montant total entre les filiales qui en bénéficient en utilisant une clé d'allocation.
Une clé d'allocation ? Et c'est là que ça devient sensible, c'est ça? Les documents insistent beaucoup sur le risque lié au choix de cette clé.
Exactement. C'est le point critique de cette méthode. La clé d'allocation, ça peut être le chiffre d'affaires des filiales, leurs effectifs, le nombre de PC, peu importe. Elle est censée refléter le mieux possible comment chaque filiale profite du service.
Mais c'est difficile à prouver, j'imagine.
Très difficile. Et si l'administration fiscale trouve que la clé choisie n'est pas logique, qu'elle est trop simple ou qu'elle ne correspond pas vraiment à l'utilisation du service, elle peut rejeter toute l'allocation. Elle dira que ça ne respecte pas le principe de pleine concurrence. Le risque que la charge ne soit pas déductible chez la filiale est beaucoup plus élevé qu'avec la méthode directe. C'est un vrai point de friction.
D'accord. Et face à ce risque, est-ce qu'il y a des conseils pratiques dans les documents pour rendre cette méthode un peu plus sûre ?
Oui, il y a des recommandations claires. La première, c'est d'éviter les clés uniques et trop simplistes. Par exemple, tout basé sur le chiffre d'affaires, c'est souvent critiqué, parce que le lien entre le CA et l'utilisation de services de support comme les RH ou l'IT n'est pas toujours direct.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Idéalement, il faut essayer d'utiliser des clés différentes, adaptées à la nature des coûts. Par exemple, les effectifs pour répartir les coûts RH, la surface des bureaux pour les coûts immobiliers, ou alors découper le gros pot de coûts en plusieurs petits pots plus homogènes, avec des clés spécifiques pour chacun.
D'accord, être plus fin dans l'analyse.
Voilà, et surtout, surtout, il faut absolument documenter en détail pourquoi on a choisi telle ou telle clé, expliquer en quoi elle reflète au mieux la consommation du service par les filiales. La justification écrite, c'est vraiment la clé de la défense en cas de contrôle.
C'est très clair. Tout ça nous amène naturellement aux points vraiment cruciaux et aux erreurs à éviter absolument. Si on synthétise un peu tout ce qu'on a vu, quels sont les principaux pièges ou les zones de danger ?
Alors, il y en a plusieurs qui sont vraiment mis en avant dans les analyses. Être vigilant là-dessus, c'est essentiel pour éviter les problèmes. Le premier point, c'est de s'assurer que la base de coûts...
Celle sur laquelle on calcule la marge.
Exactement. Qu'elles ne contiennent que des dépenses qui apportent une vraie valeur à la filiale qui reçoit le service. Il faut impérativement sortir tout ce qu'on appelle les activités de l'actionnaire.
C'est-à-dire ?
Ce sont les coûts qui bénéficient surtout à la maison mère, parce qu'elle est actionnaire. Par exemple, les frais pour faire les comptes consolidés du groupe, ou les frais liés aux relations avec les investisseurs. Ça ne concerne pas directement l'opérationnel de la filiale.
OK.
Et il faut aussi exclure les coûts pour des activités qui seraient redondantes. Si la filiale a déjà son propre service RH, par exemple, on ne peut pas lui refacturer en plus une partie des coûts RH centraux pour les mêmes tâches. On mentionne d'ailleurs que l'Indonésie est particulièrement pointueuse là-dessus.
Ne pas faire payer la filiale pour des choses qui ne lui servent pas directement ou qu'elle fait déjà elle-même. C'est noté. Quoi d'autre comme point d'attention, Evelyne ?
Attention au risque de double comptage. Il faut bien vérifier que les coûts qu'on facture via ce service ne sont pas déjà payés par ailleurs.
Par exemple ?
L'exemple classique, c'est si le groupe facture déjà une redevance de marque qui est censée couvrir, entre autres, les dépenses de marketing globales. Il ne faut pas alors refacturer ces mêmes dépenses une deuxième fois via une prestation de service de support marketing. Il faut être cohérent.
Logique. Et une question qui revient souvent, les coûts externes qu'on refacture juste, comme quand on fait appel à un consultant externe et qu'on répercute sa facture à la filiale. On appelle ça des pass-through costs. Est-ce qu'il faut mettre une marge dessus ?
C'est une question compliquée, et les documents le montrent bien. Ça dépend vraiment des pays.
Il n'y a pas de règle unique.
Non, certains pays acceptent qu'on refacture ses coûts sans marge, surtout si l'entité du groupe qui refacture n'a fait qu'avancer l'argent sans ajouter de valeur particulière. Mais d'autres administrations fiscales peuvent exiger une petite marge même sur ses coûts externes. Donc là, il faut vraiment regarder la réglementation locale et la pratique. C'est du cas par cas.
Et même question pour les frais de voyage ou d'hôtel engagés pour la mission. Marge ou pas marge ?
Là, la pratique la plus courante et souvent acceptée, c'est de les refacturer sans marge, comme une simple note de frais en fait. Mais encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre partout. Il faut vérifier que c'est cohérent avec ce qui se ferait entre entreprises indépendantes et avec les règles locales.
D'accord. On parle aussi dans les documents d'un concept de l'OCDE, les services à faible valeur ajoutée, les SFVA. C'est quoi exactement ?
Oui, c'est une mesure de simplification qui a été introduite par l'OCDE et que pas mal de pays ont adoptée. Les sources citent le Japon, la Malaisie et bien sûr les pays de l'OCDE qui suivent ces lignes directrices. L'idée, c'est que pour certains types de services...
Lesquels ?
Des services plutôt routiniers, de support, qui ne sont pas stratégiques pour le business principal du groupe. Pensez à la compta de base, la paye, certains services IT standards. Pour ces services-là, les entreprises ont une option.
Une option, pas une obligation ?
Non, une option de simplification. Elles peuvent choisir d'appliquer une marge forfaitaire de 5% sur la base de coûts, sans avoir besoin de faire une étude de benchmark compliquée pour justifier cette marge.
Ah, ça peut être intéressant pour simplifier ?
Oui, ça peut alléger la documentation. Mais attention, ce n'est qu'une option, ce n'est pas valable pour tous les services, il y a des critères précis, et ce n'est pas reconnu dans tous les pays du monde. Si on n'utilise pas cette option ou si le service ne rentre pas dans les clous, alors il faut toujours justifier sa marge avec une analyse de comparabilité. Le 5% n'est pas une règle générale.
Très clair. Et est-ce qu'on pourrait tenter, pour faire encore plus simple, de facturer juste au coût, sans aucune marge, zéro marge ?
C'est une tentation, c'est sûr. Mais les documents sont très clairs là-dessus. C'est très risqué.
Pourquoi ?
Parce que ça heurte de plein fouet le principe de pleine concurrence dont on parlait. Une entreprise indépendante ne travaille pas pour zéro profit. Donc, facturer au coût, c'est presque toujours considéré comme non conforme par les administrations fiscales, même si on pense que le service est secondaire ou accessoire. Il peut y avoir quelques exceptions très spécifiques dans certaines lois locales, mais c'est vraiment jouer avec le feu. La règle générale, c'est il faut une marge.
Mieux vaut prévoir une marge même faible, mais justifiée, que zéro.
Exactement.
Et pour finir, il y a deux derniers points soulevés dans nos sources. L'importance de revoir les calculs régulièrement et la question d'intégrer le coût du service dans le prix d'autre chose, comme un produit.
Oui, absolument. Une politique de prix de transfert, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on oublie. Les coûts changent tout le temps, les salaires augmentent, les loyers aussi, l'organisation du groupe peut évoluer, les clés d'allocation qu'on avait choisies il y a 3 ans ne sont peut-être plus pertinentes aujourd'hui.
Donc il faut mettre à jour.
Indispensable. Il faut revoir et mettre à jour périodiquement les calculs, que ce soit les tarifs horaires ou les clés d'allocation, pour s'assurer qu'on reste bien conforme à la réalité économique et aux principes de pleine concurrence.
Et l'autre point ?
Oui, c'est un point crucial. Il faut déterminer le prix du service séparément, en utilisant les méthodes dont on a parlé, coût plus marge, etc., avant de penser à autre chose. On ne peut pas juste dire le coût de ce support technique, il est inclus dans le prix de la machine qu'on vend à la filiale. Non, il faut d'abord calculer, justifier et documenter le prix du service en tant que tel. Après, comment c'est facturé ou compensé, c'est une autre question. Mais le calcul initial doit être fait de manière autonome.
Bien. Bon, en résumé, on voit que définir une politique de prix pour les services intragroupes, c'est loin d'être juste une écriture comptable interne. C'est un exercice qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de justifications et qui est scruté de près par le fisc.
C'est exactement ça. Si on devait retenir les étapes clés, ce serait 1. Vérifier que le service a une vraie valeur pour celui qui le reçoit, le fameux bénéfice test. 2. Choisir la bonne méthode de prix, qui sera souvent le coût majoré.
D'accord.
3. Calculer la base de coût très soigneusement, en faisant attention à bien exclure ce qui ne doit pas y être, coût actionnaire, doublon. 4. Justifier solidement la marge qu'on applique, soit par une étude de marché, soit via la simplification SFVA, si c'est possible et pertinent. Et 5. Le plus important peut-être, tout documenter, expliquer ses choix, ses calculs.
Donc pour l'auditeur qui nous écoute et qui peut être concerné par ces sujets dans son entreprise, comprendre ses bases, c'est essentiel pour évaluer ce qui est fait en interne, repérer les éventuels points faibles.
Et pouvoir discuter de manière constructive avec les conseils ou même avec l'administration fiscale si jamais il y a un contrôle. C'est avoir des clés de compréhension.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, ça peut même aller un peu plus loin que la simple question fiscale.
Ah ouais.
Une dernière réflexion pour conclure.
Oui, juste une pensée.
On a beaucoup parlé de conformité, de risque fiscal, ce qui est normal, mais ça soulève une question, je trouve. Si on met en place une politique de prix de transfert pour les services qui est vraiment juste, transparente, basée sur la valeur réelle, est-ce que ça ne pourrait pas aussi devenir un outil interne ?
Un outil interne ? C'est-à-dire ?
Est-ce qu'une bonne politique de prix de transfert, au-delà de satisfaire le fisc, ne pourrait pas aussi aider le groupe à mieux fonctionner ?
C'est une perspective intéressante, effectivement. Ça ouvre le débat au-delà de la pure technique fiscale et de la contrainte. Une excellente manière de terminer notre exploration. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces éclairages.
Merci à vous.
Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette discussion.